Merci d'écouter RFI, midi et demi en temps universel, il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Le Somaliland vote aujourd'hui pour sa présidentielle. Trois candidats sont en lice dans cette république autoproclamée du nord-est de la Somalie, qui espère obtenir la reconnaissance de son indépendance par la communauté internationale. Au Sénégal, Ousmane Sonko demande finalement à ses militants de rester calmes et pacifiques. En pleine campagne électorale, le Premier ministre avait provoqué une intense polémique en les appelant avant-hier à se venger de ceux qui les agressent. Et puis en République démocratique du Congo, le coup d'envoi aujourd'hui du salon Makutano, le grand rendez-vous des affaires, businessmen, politiques et personnalités sont à l'affiche. C'est donc jour d'élection au Somaliland, une présidentielle dans cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991. 1 200 000 électeurs sont appelés aux urnes pour départir trois candidats, dont le chef d'État sortant, Moussé Bihi, et le dirigeant du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye Dihiro. Florence Maurice, c'est une élection test pour le Somaliland et cruciale dans sa quête de reconnaissance internationale.
Oui, c'est un jour important et l'affluence dans les bureaux de vote en témoigne. À Hargeisa, la capitale, des files d'attente sont visibles depuis l'aube. Et sur les réseaux sociaux, des vidéos sont partagées montrant des électeurs en situation parfois de handicap, déterminés à aller voter. Sur l'une de ces vidéos, on voit même une femme tout juste sortie de son lit d'hôpital, sa perfusion encore en main. Quel que soit leur candidat, les Somalilandais ont donc à cœur de prouver aux yeux du monde leur capacité à tenir une élection apaisée dont les résultats ne seront pas contestés. Le Somaliland a toujours fait de sa vitalité démocratique un argument pour tenter d'obtenir une reconnaissance internationale. Mais le pays a connu des turbulences ces deux dernières années. L'élection a été repoussée, des manifestations de l'opposition ont été réprimées et un conflit armé a éclaté dans plusieurs régions du sud-est. L'armée du Somaliland a dû s'en retirer au profit d'une rébellion sécessionniste qui réclame son retour dans le giron somalien. Le scrutin ne s'y tient pas, d'ailleurs, ce mercredi. Alors cette élection permettra-t-elle de tourner cette page mouvementée? C'est toute la question.
Les enjeux de cette élection au Somaliland, on en reparle dans la deuxième partie d'Afrique Midi avec Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Nouvelle mobilisation au Mozambique à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle dénonce des fraudes. Il annonce 3 jours d'action. Ce matin, Paul Lorgerie, beaucoup de boutiques sont restées fermées dans le centre de Maputo, la capitale. Mais dans les quartiers périphériques, la vie suit son cours.
Sur l'avenue des accords de Lusaka, Nelson, 23 ans, attend son chiapa, un minibus pour aller travailler. Ce n'est pas l'envie de manifester qui lui manque, mais plutôt les moyens.
Aujourd'hui, certains peuvent se permettre d'aller manifester. Mais nous qui sommes là avons besoin de gagner notre pain pour nourrir notre famille. Je ne suis pas fatigué des manifestations. Une autre fois, je les rejoindrai peut-être. Ça dépend.
L'appareil sécuritaire déployé ce matin a de quoi décourager. D'autant qu'hier, le commandant de la police, le général Bernardino de Raphaël, a prévenu. Les forces de l'ordre sont prêtes à affronter ce qu'il a qualifié de terrorisme urbain.
Il ne s'agit pas de manifestations pacifiques, mais de manifestations violentes, à tendance subversive dont l'intention est de porter atteinte à l'ordre constitutionnel mozambicain. Les manifestations, ça suffit. On retourne au travail.
Depuis sa cachette, Venancio Mondlane continue de mobiliser ses troupes sur Facebook. Ce matin encore, il postait une vidéo.
On ne reculera pas, malgré les paroles de délire profond, de désespoir même, du commandant général Bernardino Raphaël. Si la police veut utiliser la violence, nous rappelons que le peuple a le droit de légitime défense.
D'après le bureau du procureur général, plus de 200 procédures pénales ont été ouvertes dans le cadre des manifestations.
Au Sénégal, voilà qui ressemble à une désescalade alors que les législatives approchent à grands pas. Après un appel à ses manifestants à se venger d'éventuelles agressions d'opposants en cette période de campagne électorale, le Premier ministre Ousmane Sonko a finalement fait machine arrière. Léa Lisa Westerhoff, il a appelé hier ses militants au calme et à rester pacifique.
Tout ce que j'avais déclaré, je vous demande de le désactiver, a dit Ousmane Sonko aux milliers de sympathisants rassemblés hier soir près de l'école normale supérieure au cœur de la capitale. Ne provoquez pas, n'insultez pas et ne frappez personne, l'État fera le travail, a ajouté Ousmane Sonko dans un appel au calme bien éloigné du droit à la riposte qu'il revendiquait sur Facebook quelques heures plus tôt. Merci Sonko pour la désescalade, peut-on lire sur X ce matin. Il faut dire que les appels à revenir à un discours plus raisonnable se sont multipliés hier. Les forces de l'ordre avaient également pris des dispositions pour éviter de nouveaux problèmes. Le passage de la caravane du PASTEF devant le domicile du maire de Dakar, Barthélémy Diass, devenu l'ennemi politique numéro un ces derniers jours, avait été par exemple interdit par la police. De la même façon, le leader politique et tête de liste de la coalition d'opposition, Sam Sakhadou, a été empêché de sortir de chez lui par les forces de l'ordre. La presse a dû se déplacer jusqu'à son domicile. Le leader qui a lui aussi appelé à récuser la violence. Tout cela suffira-t-il à éviter de nouveaux accrochages? Les caravanes du PASTEF et de Sam Sakhadou ont en tout cas toutes les deux prévu de sillonner Dakar et sa banlieue aujourd'hui. Guédaouaï pour le PASTEF et Grand Dakar pour Sam Sakhadou.
Elle est Elisa Vesterhoff en direct de Dakar. La police, de son côté, annonce avoir placé 4 personnes en garde à vue dans la ville de Saint-Louis pour coups et blessures volontaires après les affrontements entre sympathisants du PASTEF et la caravane de l'opposition Sam Sakhadou lundi. Elle annonce également avoir trouvé des armes, entre autres des tasers, des couteaux, des lance-pierres à bord de véhicules d'une caravane de campagne, sans préciser de quelle partie il s'agit. La police dit avoir interpellé dans cette deuxième affaire 77 personnes dans la nuit de lundi à mardi, essentiellement des gardes du corps de cette même équipe de campagne. Et puis toujours à propos du Sénégal, l'ancien ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, décédé le 4 novembre, sera finalement inhumé aujourd'hui à Nioro, dans le centre du pays. Dans un premier temps, ses obsèques avaient été reportées pour effectuer une autopsie. L'enquête sur la cause de son décès se poursuit devant la justice sénégalaise. De nouvelles exactions au Mali, l'armée malienne et le groupe Wagner, désormais intégré à l'Africa Corps contrôlé par Moscou, ont mené une opération dans la nuit de dimanche à lundi à l'Erneb, dans la région de Tombouctou, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Mauritanie. David Bachet, selon vos informations recoupées auprès de nombreuses sources locales, 7 civils ont été exécutés et leurs cadavres retrouvés mutilés.
Certains corps sont décapités, d'autres portent des marques de torture. Sur les images transmises à RFI, des organes ou des morceaux de chair sont dispersés à côté des cadavres. Dimanche matin, une patrouille de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner, venus du camp militaire de Léré, se rend à l'Erneb. Selon les sources locales jointes par RFI, pour certaines membres ou proches du CSP, d'autres indépendantes de la rébellion, les militaires arrêtent, torturent et exécutent plusieurs personnes, 7 au total, Touaregs et Arabes. Ce bilan est partagé par plusieurs sources et confirmé par l'association locale de défense des droits humains Kalakal. Les victimes, un mécanicien, son apprenti, un transporteur, des éleveurs, n'auraient, selon ces sources, aucun lien avec les groupes armés. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite. Une source sécuritaire malienne à Bamako confirme, mais avec un bilan, selon cette source, de 6 morts qualifiés de civils suspects. Enfin, les sources jointes par RFI rapportent le vol d'importantes sommes d'argent, plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Les militaires se sont rendus le lendemain, lundi, au marché hebdomadaire de l'Erneb, déserté par les forains, avant de rentrer dans l'après-midi dans leur camp.
Le Burkina Faso demande à la haute autorité de la communication malienne de se saisir du cas de Joliba TV News. Ouagadougou reproche à cette télévision de Bamako d'avoir organisé un débat où il avait été question de l'un des complots dénoncés par les autorités burkinabées. L'un des participants de ce débat, Issa Kaou, avait alors dénoncé un montage de la part du pouvoir ouagalais. Issa Kaou, lui, a été interpellé ce matin à son domicile et emmené pour interrogatoire. Au Tchad, l'agence électorale chargée d'organiser les législatives et locales du 29 décembre rejette plusieurs candidatures du MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby, qui soutient aujourd'hui son fils et successeur. Au moins 6 candidats de ce parti voient leur dossier écarté, Carole Valade.
Au moins 5 candidats du MPS aux élections législatives sont déboutés pour avoir été condamnés à de la prison ferme, 4 d'entre eux pour détournement de fonds publics, selon les lettres de rejet consultées et authentifiées par RFI, dont le secrétaire général du parti, Mahamat Zenbada, qui voit son dossier rejeté en raison d'une condamnation pour faux et usage de faux en écriture publique et pour détournement de deniers publics en 2012. Mahamat Zenbada a certes bénéficié d'une grâce présidentielle par la suite, mais en droit tchadien, la grâce laisse subsister la condamnation au casier judiciaire, à la différence de l'amnistie. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, le casier vierge présenté par le candidat serait donc un faux. Le MPS procède actuellement à des vérifications, dit son porte-parole Issa Doubragne, et se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour des recours éventuels qui devront donc être déposés sous 5 jours au Conseil constitutionnel. Carole Valade, Djamena, RFI.
Au Soudan, voilà 7 mois, Kel Fachar est assiégé par les paramilitaires FSR du général Emeti. La capitale du Darfour Nord est la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. Pour plus longtemps toutefois, si l'on en croit un rapport de l'université américaine de Yale qui s'appuie sur des images satellites, Alexandra Brangeon.
Selon le laboratoire humanitaire de l'université de Yale, les forces de soutien rapide ont resserré leur étreinte sur la ville d'El Fasher. Les paramilitaires ont avancé sur plusieurs fronts ces derniers jours et convergent sur 3 points stratégiques. Le quartier général de l'armée dans le centre d'El Fasher, la base militaire aérienne à proximité et la route qui mène du centre-ville au camp de déplacés de Zamzam, plus au sud. Les images satellites publiées par l'université montrent que le quartier général de l'armée a été endommagé ces derniers jours, ainsi que des bâtiments à proximité, une mosquée, le grand marché d'El Fasher, une école primaire et des habitations dans des quartiers résidentiels voisins. Ces images montrent également une augmentation significative du nombre de déplacés dans le camp de Zamzam, situé à 8 km. Alors que les paramilitaires semblent progresser, les organisations humanitaires rappellent qu'El Fasher et le camp de Zamzam ont servi de refuge pour de nombreux civils fuyant les combats dans toute la région et mettent en garde contre de possibles exactions si la ville tombe aux mains des paramilitaires.
Il est 13h42 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, en République démocratique du Congo, le coup d'envoi du salon d'affaires Macutano. La COP29, les dirigeants africains demandent une aide financière conséquente du Nord lors des débats qui ont lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Et puis les sports du football, la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 commence aujourd'hui. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mercredi, au Gabon, le gouvernement décrète les journées de jeudi et vendredi fériés, payés et récupérables. Cette initiative doit permettre aux Gabonais de se préparer et de participer activement au référendum constitutionnel qui sera organisé samedi. Pendant ce temps, la campagne bat son plein. Le Premier ministre Raymond Dongsima était hier en meeting pour le oui à Franceville, dans le Haut-Ogoué, fief de la famille Bongo. Le général Oligui Nguema, pour sa part, a reçu certains des partisans du non dans une démarche d'écoute et de dialogue, selon la présidence. Et on part à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où commence le grand raout des affaires Macutano. 10e édition de ce rendez-vous qui ambitionne de réunir patrons, politiques, personnalités et partenaires du Congo pour parler développement. Pauline Azidi, vous êtes en direct de Kinshasa. MAC10 est lancé dans une demi-heure au centre financier de la capitale congolaise.
Oui, une première journée qui sera très institutionnelle avec des intervenants qui vont se relayer sur la scène du centre des congrès, des officiels congolais, bien sûr. Le président Félix Tshisekedi devrait d'ailleurs clore cette première journée, mais aussi des personnalités venues du continent. On évoque la présence de l'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o, de l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama. Dès demain, jeudi, place aux ateliers, plusieurs thématiques sur la table, énergie, finance, industrie minière, technologie, santé ou encore culture. L'objectif de Macutano, c'est de faire échanger les acteurs de chaque secteur, qu'ils viennent du privé ou du public, pour faire bouger les lignes. Un participant, ancien ministre de la Santé de la RDC, confiait que dans le passé, des contrats avaient été signés en marge de Macutano. Mais lui, comme d'autres participants d'ailleurs, estime qu'un rendez-vous par an, ce n'est pas suffisant pour transformer l'essai et relever les défis du développement économique en RDC. Il faut plus de formation, plus d'échanges. Il faut finalement, Nicolas, aller au-delà de la prise de conscience et du diagnostic.
Pauline Azidi, Midi, correspondante de RFI à Kinshasa. La COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Les dirigeants des pays africains sont en force pour ce qui s'annonce comme les négociations climatiques les plus difficiles depuis l'accord de Paris. Hier, ils ont plaidé pour une aide conséquente des pays riches. Jeanne Richard.
Une quinzaine de dirigeants africains a pris la parole ce mardi. L'occasion de rappeler les terribles catastrophes qui ont récemment frappé le continent. Sécheresse, vagues de chaleur, inondations ou cyclones. Et les pays riches, responsables historiques du changement climatique, se sont engagés à aider les plus vulnérables à faire face, a rappelé Fornia Singbe, le président du Togo.
L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré.
Or, l'argent promis a tardé à être rassemblé et Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, appelle désormais à une aide bien plus conséquente.
Les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Le nouvel objectif pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars.
Ce mercredi, les représentants du Gabon, de la RDC ou encore du Kenya doivent à leur tour s'exprimer. En parallèle, les négociations ont déjà débuté.
Les sports du football avec les éliminatoires de la CAN 2025. La cinquième et avant-dernière journée débute aujourd'hui avec trois matchs. Namibie-Cameroun, Libéria-Togo et Tchad-Sierra Leone. Les Tchadiens sont en très mauvaise posture. Dernier de leur groupe, ils doivent impérativement gagner leurs deux derniers matchs pour garder une petite chance de se qualifier. Pour ne rien arranger, la sélection est obligée de jouer ses matchs à domicile en dehors du pays, car le stade de N'Djamena ne répond pas aux normes de la FIFA. Tchad-Sierra Leone ce soir va donc se jouer à Abidjan en Côte d'Ivoire, au grand désarroi des supporters des SAO. À N'Djamena, le reportage de Nestaï Amgoto.
Notre objectif, c'est de suivre le match ici à N'Djamena avec les SAO, les galvaniser. Et là, maintenant, c'est impossible pour nous.
Ils sont nombreux, les supporters des SAO, à exprimer comme Yves Dangourbé leur déception. Les portes du stade Idriss Mamad Ouya restent désespérément closes. Et cela, malgré l'engagement pris en septembre par le ministre des Sports de réouvrir l'enceinte au plus tard, le 15 octobre. Ce retard contraint donc encore une fois les SAO à disputer leur match à domicile à l'extérieur du pays. C'est en Côte d'Ivoire que la sélection va affronter la Sierra Leone. Un match sans supporters ou presque.
Seule la Côte d'Ivoire nous donnait certaines craintes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on joue à domicile, on pouvait aller très loin dans cette compétition.
Pour que l'État tchadien fasse tout, ou bien le ministère de Sport, pour que les Tchadiens, les SAO puissent jouer ici à N'Djamena, on puisse également les regarder, vivre ce moment d'ambiance-là.
Le ministère des Sports rejette la faute sur l'entreprise de construction, tandis que cette dernière évoque des conditions climatiques difficiles pour expliquer le retard. Pour mémoire, le dernier match de SAO à N'Djamena remonte à septembre 2020 contre la Guinée. Depuis, la FIFA interdit l'utilisation du stade. Elle ne donnera son feu vert que lorsque tous les travaux de mise en normes internationales auront été effectués. Nestayam Goto, N'Djamena, RFI.
Tchad, Sierra Leone à Abidjan, donc coup d'envoi, 19h, temps universel. Anne Cantiner, les grands titres de ce mercredi 13 novembre.
La formation de la future équipe Trump avec des choix sans surprise mais qui pourraient générer des conflits d'intérêts. Le milliardaire Elon Musk va prendre en main une structure hors du cadre gouvernemental pour tailler dans les dépenses fédérales. Concernant la politique étrangère, les responsables choisis pour la situation au Proche-Orient considèrent qu'il n'y a pas de Palestiniens et soutiennent tous la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée. L'actuel secrétaire d'État américain, lui, appelle aujourd'hui à des pauses humanitaires réelles et prolongées. Elles sont nécessaires dans plusieurs parties de Gaza. C'est ce que dit Anthony Blinken. La guerre a causé la mort de plus de 43 700 personnes au moins, selon le dernier bilan communiqué par le Hamas. Et puis le militant écologiste canadien Paul Watson reste en détention au Groenland, annonce de la police aujourd'hui, alors que les autorités danoises doivent prendre une décision quant à son extradition vers le Japon. Séjour d'élection présidentielle au Somaliland, cette république autoproclamée, dont aucun État au monde n'a pour l'instant formellement reconnu l'indépendance, a fait sécession de la Somalie en 1991 et depuis organise régulièrement des scrutins. On en parle avec Roland Marchal, chercheur au Centre de recherches internationales de Sciences Po. Et il est votre invité, Nicolas Sciure.
Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
Trois candidats en lice, une élection au suffrage universel direct pour la quatrième fois, je crois, depuis 1991. Diriez-vous que le Somaliland confirme aujourd'hui avec cette présidentielle son statut d'exception dans une corne de l'Afrique globalement déstabilisée ?
Non, je crois, hélas, que l'optimisme qui a régné à propos de la construction d'un ordre politique au Somaliland, et cet optimisme n'est plus d'actualité. Le Somaliland est aujourd'hui à la fois soumis, disons, à des pressions internes qui sont extrêmement fortes, et de fait, les élections n'auront lieu que dans les deux tiers du pays, puisque cette circonscription électorale sont aujourd'hui jugées trop peu sûres pour y mener un processus.
Il y a un contexte politique et sécuritaire qui s'est donc dégradé. L'un des grands sujets au Somaliland, et c'est aussi l'un des thèmes de cette élection, c'est celui de la reconnaissance internationale de cette république autoproclamée. Est-ce que ce sujet fait consensus parmi les candidats ?
Non, je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, si vous voulez, dans les partis qui participent aux élections. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait qu'on a annoncé le 1er janvier un document, ce Memorandum of Understanding, dont personne n'a jamais eu la moindre copie.
Avec l'Éthiopie.
Avec l'Éthiopie, oui, et dont les conditions de reconnaissance n'ont jamais été spécifiées. C'est-à-dire que on dit c'est 20 km de côte, mais où ? Pour faire quoi ? On va le donner à l'Éthiopie, mais c'est pour faire un port militaire, donner hospitalité à des troupes étrangères ou faire un port commercial. Mais alors pourquoi avoir fait le port de Berbera, qui est quand même une réalisation tout à fait admirable en termes de développement d'infrastructures, avec la route qui va de Berbera jusqu'à l'Éthiopie, qui est aujourd'hui en excellente condition et qui permettrait justement un débouché maritime pour l'Éthiopie qui est tout à fait analogue à ce qu'on a à Djibouti.
Oui, c'est-à-dire, pour être tout à fait précis pour nos auditeurs, on parle de ce protocole d'accord annoncé l'an dernier entre Addis Abeba et le Somaliland, un accès à la mer pour l'Éthiopie contre une reconnaissance de la souveraineté de cette province, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Mais la Somalie avait vivement protesté, ça veut dire que quoi ? Que toute la région peut sombrer dans le chaos à l'heure actuelle sur cette question de l'indépendance du Somaliland ?
Je crois qu'il faut, il y a toute une emphase, disons rhétorique, où on monte aux extrêmes. Ce qu'il faut voir, c'est que on parle d'un accord qui a été signé il y a 11 mois, dont le texte n'est même pas disponible au Parlement du Somaliland.
Personne ne sait.
Donc il y a un vrai problème, si vous voulez. Qui est justement, qui permet de mesurer le fonctionnement démocratique d'institutions. Il y a un vrai problème là-dessus, et notamment, on ne sait pas, donc on peut opter pour un camp ou pour l'autre, ou essayer de rester neutre, mais fondamentalement, il y a quand même un énorme problème sur le fait que une partie de la population ressent cet accord comme un empiètement sur un territoire qui est le sien par un pays étranger, et que le gouvernement du Somaliland a extrêmement peu d'arguments à faire valoir, à part annoncer une reconnaissance qui est imminente depuis le 1er janvier 2024, mais qui n'est pas encore advenue.
C'est-à-dire que pour vous, le vrai problème se situe en interne au Somaliland, ce ne sont pas les protestations de la Somalie.
Vous avez un problème interne, vous avez une crise politique interne qu'on peut analyser, mais qui a multiples facettes, mais vous avez une crise politique interne qui demande une résolution, et on peut penser que le résultat de l'élection qui a lieu aujourd'hui sera un pas vers une résolution plutôt que vers l'affrontement. Et puis, vous avez un dispositif régional où il y a effectivement le gouvernement de Mogadiscio, la question de la souveraineté somalienne, la question de ce que veut réellement l'Éthiopie, parce que c'est aussi Monsieur Abiy Ahmed fait beaucoup de déclarations qui sont pas toujours les plus responsables, qui ont été qui n'ont jamais été suivies ou soutenues par le reste de l'Union africaine, des pays africains ou de la communauté internationale. Donc il y a un énorme problème aussi là-dessus. Il s'agit d'en débattre de façon calme, sans s'envoyer des invectives à la tête. Et c'est exactement un des enjeux de cette élection. Et il faut espérer qu'à Mogadiscio et à Hargeisa, le calme revienne pour que ces questions-là soient abordées de façon constructive.
Merci, Roland Marchal. Merci de vous être rendu disponible pour ces éléments d'analyse sur cette présidentielle au Somaliland. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. L'université sud-africaine de Witwatersrand à Johannesburg vient d'accueillir la conférence annuelle sur le journalisme d'investigation. L'occasion de débattre des intimidations dont les professionnels de la presse sont la cible. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières, la situation est problématique, ou pire, dans la moitié des pays d'Afrique. Procédures judiciaires, détentions arbitraires, violences, meurtres et harcèlement numérique, Claire Bargelès.
Les journalistes ne sont pas immunisés contre les attaques numériques et leurs conséquences qui peuvent se traduire de façon bien réelle, comme l'explique John Alan Namu. Il est cofondateur du média d'enquête Africa Uncensored.
Quand on fait du journalisme d'investigation, on s'expose naturellement aux critiques, mais il y a des fois où cela va bien au-delà de ça, avec des cas de campagne de désinformation très spécifiques et ciblées qui nous visent, nous ou notre organisation. On en a fait l'expérience lors des manifestations de juin au Kenya. On peut aussi voir ces informations privées être divulguées en ligne, sur le web, le doxing, par exemple votre adresse, ou bien les gens révèlent où vos enfants vont à l'école. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai vu d'autres personnes en être victimes.
La sécurité physique des journalistes peut donc être en jeu, tout comme leur bien-être mental en cas de cyberharcèlement. Et les femmes sont particulièrement touchées. Dans une récente enquête mondiale de l'UNESCO et du Centre international des journalistes, 73% d'entre elles déclaraient avoir subi des violences en ligne dans le cadre de leur travail. Madeleine Gunga est journaliste camerounaise spécialisée dans les enquêtes environnementales et rédactrice en chef pour l'Afrique au Centre Pulitzer.
Imaginez-vous, j'ouvre le téléphone et je vois sur Facebook, j'ai publié un article et des gens qui sont en train de m'insulter. On n'est pas sans cœur. On va y penser toute la journée. Et si ça se répète, si chaque avis qu'on donne sur les réseaux sociaux, des gens nous insultent, les gens nous traquent, je pense qu'à un moment donné, on aura comme la phobie des réseaux sociaux. Notre humeur va forcément changer. Donc, je ne peux pas dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une autre vie et ce qui se passe chez moi, c'est une autre vie. C'est pour ça que moi, je fais des efforts et je conseille aux collègues toujours de faire des efforts, de trouver des méthodes pour se protéger quand on est en ligne.
De plus, les mêmes outils de recherche en source ouverte qu'utilisent les journalistes pour enquêter sont de nature à se retourner contre eux, tout comme leurs téléphones ou leurs ordinateurs qui peuvent être espionnés, ce qui conduit parfois à aussi mettre en danger ceux qu'ils ont interrogés. Il faut donc agir avec prudence, selon Jones Barazza, expert en cybersécurité pour le réseau Code for Africa.
Avec l'émergence de nouvelles technologies, on voit aussi apparaître de nouveaux dangers pour les journalistes. Il faut que les individus et les rédactions mettent en place des règles pour s'assurer d'avoir un minimum de sécurité.
Dans une déclaration adoptée à la fin de la conférence sud-africaine, les participants ont réclamé plus d'efforts de la part des gouvernements et des rédactions du continent afin de mieux protéger les journalistes et sauvegarder la liberté d'expression. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et c'est ainsi que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Jean-Édouard Loaïsa et Cécile Périard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans un peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Radio Foot International. Du foot, mais pas que.
Depuis un certain temps en Afrique, il y a du populisme qui gagne les pouvoirs. Il faut gouverner et arrêter le populisme. Dire qu'il y a un désamour entre le public et lui.
Quel désamour?
C'est pas classe.
Moi je t'aime, Marius, tu sais. L'Afrique, j'adore.
Nous aussi, on l'aime.
Vive les lions.
Radio Foot International, du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU, sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Vendredi.
Question de femmes, prévenir et réagir en cas d'accident domestique.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
La baisse de la natalité devient un phénomène mondial et va bouleverser à terme les sociétés et nos modes de vie. Alors faut-il vraiment s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.